Donc, c'est la rentrée, vous vous en êtes aperçu. Pour les étudiants, c'est peut-être encore dans quelques jours, je pense. Et peut-être comme chaque année, loin de leur famille, un ou deux d'entre eux viendront dans notre rassemblement. Alors, comme il est dit aux Hébreux, n'oubliez pas l'hospitalité. Et pour développer ce thème, parce que Jésus a parlé d'un tas de choses très spirituelles et puis des choses beaucoup plus journalières et pratiques. Alors pour développer ce thème, on va lire Luc 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 24. Luc 14, 1 à 24. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas le jour du sabbat ?» Ils ne purent rien répondre à cela. Il adressa une parole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit, « Lorsque tu seras invité, par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il y ait parmi des invités une personne plus éminente que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que celui qui t'a invité vienne et te disent « Mon ami, monte plus haut, alors cela sera un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. » Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, des étudiants, et tu seras heureux parce qu'ils ne peuvent te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. « Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit à son maître, « Ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Alors les exhortations relatives à l'hospitalité ne manquent pas dans le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament nous donne aussi des exemples. Le plus célèbre, certainement, c'est l'accueil qu'Abraham fait au messager céleste. Ça nous est relaté dans Genèse 18. Quand il les vit, donc Abraham, qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna à terre. « Ne passez pas loin de vos serviteurs, leur dit-il, qu'on apporte un peu d'eau pour laver vos pieds. Reposez-vous sous cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. » Et on voit Abraham demander à Sarah de pétrir des gâteaux. Il tue un veau gras, tendre et bon, le fait préparer et le servir avec de la crème et du lait. Alors pour un morceau de pain et un encas, c'était pas mal. Et c'est peut-être en se souvenant de cet épisode que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage, grâce à l'hospitalité, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Alors l'hospitalité, le mot n'est pas employé dans le texte de Luc. Mais le verbe « inviter » est très présent. Et dans ces 24 versets, on a quatre genres littéraires très différents. D'abord un récit, où on voit Jésus invité à la table du pharisien. Et puis une parole de sagesse sur le comportement approprié quand on est reçu dans une maison. Puis une autre parole de sagesse comparable, mais adressée à celui qui reçoit. Et enfin une parabole bien connue, la parabole des invités. Et il est frappant que tous ces textes, qui sont bien différents, se rejoignent autour du thème de l'hospitalité. Alors je pense que, comme dans beaucoup de textes de la Bible, il y aurait beaucoup à dire. Et je voudrais juste retenir ce qu'il nous apporte sur ces deux situations qui sont de tous les temps, un invitant et un invité. L'hospitalité, c'est un jeu, un échange, une histoire entre deux personnes, celui qui invite et celui qui est invité. Et dans un premier temps, j'essaierai de résumer l'enseignement pratique sur notre hospitalité. Et dans un second temps, on considérera comment Dieu lui-même pratique l'hospitalité, à sa manière. Nous comme invitants, ou invité, et Dieu lui-même comme invitant et invité. Alors, qu'est-ce que Jésus nous enseigne sur notre rôle d'invitant, de celui qui reçoit ? Jésus dit aux pharisiens qui l'avaient invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, agis de telle ou telle façon. » Il y a donc une bonne manière d'inviter, et puis une mauvaise, certainement. Et à ce sujet, il y a plusieurs questions qui nous sont posées. La première, c'est quelle est notre motivation ? Cette question ressort de l'invitation adressée à Jésus par le pharisien. Une invitation plus douteuse, ambiguë, discutable. Pourquoi ouvre-t-il sa maison à Jésus ? À première vue, c'est un geste louable et même un peu courageux. Jésus n'était pas considéré comme le bien-pensant, comme une personne très recommandable. Mais quelle était vraiment la motivation du pharisien ? Et le récit la dévoile. Sa motivation, c'était la curiosité, une curiosité plutôt critique. Et cette curiosité était partagée par ses collègues pharisiens. Tout au début du texte, il nous est signalé, il l'observait. Et justement, la présence d'un malade allait permettre de le voir à l'œuvre, de l'entendre. Et quand Jésus pose cette question, peut-on guérir le jour du sabbat ? Vous avez remarqué un grand silence. Un silence révélateur de leur non-adhésion. Alors on peut inviter une personne, non pas parce qu'on s'intéresse à elle, qu'on s'intéresse en vue d'un dialogue, un dialogue enrichissant, ou pour l'aider d'une manière ou d'une autre, mais simplement par obligation ou par curiosité, pour l'évaluer, éventuellement trouver de bonnes raisons pour la critiquer. Et ce n'est pas la bonne raison, la bonne façon de pratiquer l'hospitalité. Jésus nous demande donc de vérifier nos motivations. La deuxième question, très directement posée par le texte, est celle-ci. Qui invites-tu? Qui invitons-nous? Et je trouve que la parole de Jésus est rude, gênante. N'invite pas tes amis, tes parents. Je trouve que c'est, pour ma part, un peu excessif. En fait, je pense que l'exagération est voulue pour que la parole nous atteigne et nous bouscule un peu. Parce que l'Évangile honore aussi la famille et l'amitié. Jésus lui-même aimait fréquenter ses très chers amis de Béthanie, Marthe, Marie et Lazare. Alors ces paroles par lesquelles Jésus demande de privilégier les invités les moins attirants, les pauvres, les handicapés, les déshérités, fixent les étudiants, fixent notre attention sur un aspect de l'amour vrai. L'amour vrai, c'est un amour qui coûte toujours. Il nous demande d'accepter d'être perdant, de ne pas trouver notre compte dans cette démarche. Ce que nous demande Jésus, c'est que ne nous limitions pas à ce plaisir assuré, à cet échange de bons procédés que sont les invitations familiales, les invitations entre les personnes qui ont des affinités. Il nous invite à dépasser ce cercle, à sortir un peu de notre zone de confort, à inviter aussi ceux que nous connaissons mal, qui à première vue n'ont pas grand-chose à nous apporter, des solitaires, des éprouvés, des dépressifs. Cet amour qui coûte, c'est pas que pour les invitations que nous sommes appelés à le pratiquer. C'est un peu dans tous les domaines de notre vie qu'il a sa place. La troisième question, elle prolonge la seconde, elle est inscrite dans l'exemple du maître de maison que décrit la parabole. Que faisons-nous de notre maison? À quoi sert-elle? Est-il suffisant pour notre maison de nous abriter, nous fournir un cadre de vie confortable, nous permettre des échanges agréables? Cette parabole nous instruit. Elle montre tout d'abord qu'il n'est pas interdit d'inviter des gens aisés, de la bonne société, comme le fait cet homme riche. Les premiers invités ont du bien, de la famille, mais ils refusent. Et leur refus donne l'occasion au maître de maison de rechercher et de trouver des malheureux, des exclus, des démunis. À deux reprises, il envoie son serviteur aussi longtemps et aussi loin qu'il le faut pour dire « Venez chez moi, la porte est ouverte, un repas vous attend ». Il n'a pas peur de salir sa luxueuse maison en y introduisant des gens mal habillés, d'une propreté douteuse. Le serviteur doit ramener tout ce qu'il trouve. Alors est-ce que notre maison, notre appartement sont aussi pour d'autres, en particulier pour ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit la nature de leurs besoins? Et après ces quelques réflexions sur le rôle de l'hôte Jésus nous enseigne aussi en tant qu'invité. Et moi, je vois dans ces textes deux recommandations principales. D'abord, savoir se laisser inviter. Jésus a fait preuve d'une grande liberté à cet égard. Lui qui était si souvent entouré par des foules, savait se laisser inviter par des particuliers. Quand les pharisiens, qui ne l'aimaient pas beaucoup en tout cas, l'invitent, il accepte. Il vient tout simplement, il reste lui-même, il dit ce qu'il a à dire, il fait ce qu'il a à faire. Dans la parabole, l'erreur grossière des premiers invités est de refuser l'invitation. Alors que les malheureux répondent oui, en dépit peut-être de réticences bien compréhensibles. Quand on nous invite, quelquefois on peut être surpris. On n'a peut-être pas très envie d'accepter. On pense même parfois qu'on aurait mieux à faire, pour différentes raisons. Et pourtant, Jésus nous enseigne qu'il est bon d'accepter les invitations. Laissons-nous inviter comme notre Seigneur l'a fait. Il y a là aussi de riches expériences à faire. Puis l'autre recommandation, faire preuve d'humilité. Lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors c'est une façon de s'exprimer certainement, c'est-à-dire n'aie pas de prétention, n'étale pas tes avantages, tes connaissances, tes dons, laisse parler les autres. Intéresse-toi à la situation des autres convives. Sois attentif à ceux qui sont timides, craintifs, ne t'impose pas. Un convive orgueilleux et bavard est quelquefois difficile à supporter. Alors, invitant ou invité, on a tous besoin d'être enseigné. Mais notre problème de fond, mon problème, est bien le suivant, comment aimer vraiment? Qui m'apprendra ce genre d'amour qui coûte, ce genre d'amour qui ne m'est pas naturel, cet amour qui accepte de vrais sacrifices? Qui nous donnera un tel amour? Et ce texte vient à notre aide, il nous montre Jésus, il nous parle de Dieu. Après avoir vu nos attitudes face à l'invitation, on va essayer de considérer maintenant l'hospitalité divine, un Dieu qui invite. C'est quelque part le message de la parabole. La figure centrale est bien le maître de maison, et non pas les différentes catégories d'invités. Or, ce maître de maison, c'est une figure de Jésus qui prononce la parabole et une figure de Dieu qu'il révèle. Que le Dieu souverain, éternel, glorieux, invite des hommes à sa table, les convie dans sa maison, c'est quand même extraordinaire. C'est un tableau qui quelque part peut bouleverser. Surtout quand on sait que ces invités de Dieu sont des hommes pécheurs, des égarés, des coupables, souvent en révolte contre lui. Et son invitation, elle est large, variée. Dieu invite parce qu'il est riche et généreux. Alors, de par le monde, il y a des hommes riches qui sont aussi généreux. On pourrait parler de Bill Gates, vous savez, le patron de Microsoft, le père de Microsoft, un homme fabuleusement riche, qui donne beaucoup d'argent dans le cadre d'une fondation pour secourir les malades, surtout en Afrique, je pense. C'est un sacrifice louable, mais qui reste tout de même limité. Les multimilliardaires comme lui qui donnent peuvent vivre très largement avec ce qu'il leur reste. Personnellement, ils ne sont pas tellement touchés. Le Dieu de la Bible n'offre pas seulement ses richesses, ses biens, il s'offre lui-même. Il s'offre en la personne de son Fils, notre Seigneur, pour notre salut. C'est certainement le plus grand sacrifice qu'on puisse imaginer. Un sacrifice personnel, une vie livrée pour les autres, et pas n'importe quelle vie, celle du Fils de Dieu. C'est là l'amour, le vrai amour le plus pur. Et ce Dieu invite. Il ne convoque pas, comme le font souvent les autorités, mais il envoie des serviteurs pour transmettre l'invitation. À la lumière de cette parabole, il n'est pas un dictateur qui impose sa volonté, qui oblige. On peut refuser l'invitation. On peut mépriser sa grâce. On peut se trouver des excuses, plein d'excuses. J'ai acheté ceci ou cela, je viens de me marier, je ne peux donc pas venir. Par contre, la parole du maître à son serviteur pour nous troubler, contraint-les d'entrer. Alors ça peut paraître opposé à ce qu'on vient de dire qu'on peut refuser. Mais je pense qu'il ne s'agit pas là de contraintes physiques, on ne prend pas l'invité et on l'emmène de force. C'est la contrainte de l'amour, un effort de persuasion, une insistance pour vaincre les hésitations, les craintes. D'ailleurs, la version du semeur nous dit « Fais en sorte que les gens viennent ». Voilà le Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu. Tout au long des siècles, il a envoyé ses prophètes, il a envoyé les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, ses témoins. Il nous envoie pour proclamer « Venez, car tout est déjà prêt ». Et ce Dieu, c'est aussi un Dieu de joie. C'est la vision que nous laisse cette parabole, afin que ma maison soit remplie. On pressent la joie qu'il va ressentir quand il pourra contempler cette foule de convives, tous ces malheureux, jouissant d'un bon et abondant repas, leur joie nourrissant la sienne. Et ce Dieu-là, c'est aussi un Dieu qui se laisse inviter. Pour ne pas prolonger trop, je dirais seulement ceci. Jésus s'est laissé inviter dans les maisons de ses contemporains. Cela illustre peut-être la volonté de Dieu de venir habiter parmi nous, chez nous, dans nos cœurs. C'est le ministère du Saint-Esprit que l'apôtre Paul n'hésite pas à décrire ainsi. Vous êtes le temple de Dieu, le temple de l'Esprit-Saint. Et vous connaissez tous, je pense, l'offre inoubliable du Seigneur dans l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est là notre espoir. Non seulement Dieu nous invite au festin de son royaume, mais il nous offre sa présence, son esprit. Il devient notre invité. Dieu en nous peut et veut nous communiquer cet amour vrai que nous ne possédons pas naturellement et nous rendre capables de mieux inviter en ouvrant nos cœurs. Et je laisserai le mot de la fin à l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Continuez à vous aimer les uns les autres, comme des frères. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir.